voix nue. Cette semaine, nous réécoutons la rencontre en 2006 entre Caroline Brouet et Françoise Héritier, qui vient de nous quitter. Ce soir, au cœur de l'Afrique.
Françoise Héritier, nous nous sommes quittés hier sur votre arrivée en 1957 au pays des Mossi et des Pana, au Burkina Faso, qui était alors la Haute-Volta. J'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui sur cette expérience de l'Afrique et sur l'expérience de l'ethnologie au contact des populations dont vous avez partagé la vie pendant près de 6 ans quand même, je crois.
De façon discontinue.
Bien sûr. Vous êtes arrivé en pays Mossi et Pana, nous le disions, et puis vous avez fait un deuxième voyage qui vous a conduit chez les Samo, avec lesquels vous avez passé beaucoup de temps. Je crois que c'est vraiment cette étude-là qui a été longue pour vous.
C'est l'étude la plus,
la plus approfondie.
Il faut dire que la première était, comme je vous l'ai dit, sur la proposition de Claude Lévi-Strauss, c'était une prise de contact et c'était de l'ethnologie appliquée pour laquelle nous devions rendre des rapports. Et pour laquelle, d'ailleurs, je me souviens d'avoir suivi un entraînement auprès d'un ingénieur géographe parce qu'il fallait relever des plans de terroir, par exemple. Donc, c'était avec l'ingénieur géographe Jean Hureau, qui est mort récemment, et qui m'avait donné cette compétence technique particulière. Mais cette mission, en fait, où j'étais moi le géographe et mon collègue Michel Izard, l'ethnologue, en fait, nous avons très vite partagé équitablement les tâches. Lui s'est mis à la géographie et moi à l'ethnologie. D'ailleurs, c'était ce que je voulais. On travaillait véritablement ensemble et non pas du tout chacun de son côté.
Alors, qui sont-ils, ces Samo ?
Eh bien, ce sont des gens...
Et pourquoi sont-ils si intéressants pour l'ethnologue ?
Et ce sont des gens de population mandée. C'est des populations mandées qui sont venues vraisemblablement de l'Ouest 15e, 16e siècle. Qui se sont installés là, à côté de populations autochtones, et puis qui ont des particularités qui m'ont retenu tout de suite. Parce que donc, comme nous traversions, nous nous arrêtions pour poser des questions, pour voir un peu à qui... C'était pas le but de notre travail cette année-là, mais c'était intéressant tout de même de contacter cette ethnie. Et là, en fonction de leurs réponses à des questions relativement banales, je me suis rendu compte qu'ils présentaient un certain nombre d'aspects tout à fait intéressants. Et donc, les traits que j'avais relevés, en plus, se touchaient à des questions que je ne connaissais pas, que je ne savais pas trop comment manier, parce que je n'avais pas appris à le faire. Je reviens sur le fait que les ethnologues de cette période n'étaient pas des ethnologues préparés institutionnellement à la faculté pour devenir ethnologues. On apprenait sur le tas. Bon. Et donc, mais je m'étais rendu compte de choses étonnantes dans le système de parenté. Pourquoi le système de parenté et le système d'alliance ? Parce que Lévi-Strauss, c'était pour Lévi-Strauss des thèmes importants. Et que, centraux même, je dirais, et que je continue moi aussi à penser que ce sont des thèmes centraux pour la compréhension du fonctionnement d'une société. Alors, on appelle système de parenté le système de l'ensemble des termes qu'utilise un individu quelconque, que l'on va appeler égo. Égo, c'est le point de référence, l'ensemble des termes dont il se sert pour désigner ses différents parents. Alors, désigner, alors il y a deux types de systèmes. Mais moi, je parle du système de désignation et non pas d'appellation. Désigner, vous direz mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, mon cousin. Puis quand vous les appelez, vous dites tonton, tata, papa, maman. Mais enfin, bon, mais je veux dire, c'est le système de désignation. Bon. Donc, qui est le plus important. L'autre l'est aussi, bien sûr, mais c'est celui-là qui est le plus important. Donc, et le système d'alliance, ce sont les règles qui régissent le choix du conjoint. On n'épouse pas qui
n'importe
on veut,
qui.
On n'épouse pas n'importe qui. Voilà. Donc j'ai été prédisposée à m'intéresser à cela à cause des travaux de Claude Lévi-Strauss sur les structures élémentaires de la parenté, mais également pour d'autres raisons qui sont des anecdotiques, mais qui ont gardé pour moi un sens. Parce que Parce que je crois à ces façonnages qui viennent de l'enfance. Vous parlez du goût pour la terre, pour les cultures paysannes, etc. Bon, ça joue aussi, bien sûr. Mais il y avait autre chose qui, là, ne vient pas d'Auvergne, mais vient de mes grands-mères, l'une auvergnate et l'autre bourguignonne, donc. Et chez qui j'ai passé mes vacances chez ma grand-mère auvergnate, mais elle était venue s'installer en Bourgogne et ma grand-mère bourguignonne était là aussi, donc, et nous étions les enfants avec ces deux grands-mères, on passait beaucoup de temps assises, ma sœur et moi, à leurs pieds, parce que là encore, rapport des hommes et des femmes, des garçons et des filles à cette époque, mon frère, lui, pouvait faire du vélo et aller jouer avec ses copains, mais nous, les filles, nous devions passer les après-midi à tricoter des pulls, des chaussettes et des gants pour l'hiver, à toute la famille, assise auprès de nos grands-mères. Et mes grands-mères, qui ne s'aimaient pas, avaient trouvé un terrain d'entente anodin mais extrêmement fructueux pour moi qui écoutais. Elle discutait sans cesse des rapports de parenté qui unissaient des gens qu'elle connaissait. Et elle ne disait pas les rapports de parenté, mais elle expliquait les cheminements. Elle disait par exemple, parce que c'était des racontars, c'était des commérages, si vous voulez, sur des gens. Alors, je ne sais pas, moi, la fille à Lamartine qui a épousé le fils du boulanger de Lachenal, ils se sont rencontrés lors du mariage de son cousin, pas la fille à Lamartine, mais au boulanger de Lachenal, qui avait épousé, lui, une cousine germaine de la fille à Lamartine. Bon, alors donc, vous voyez, alors moi, j'enregistrais tout ça et j'essayais de me représenter les différents cheminements. Et c'était extrêmement instructif. Parce que ça oblige à une gymnastique mentale qui est peut-être un des éléments qui font repoussoir pour les études sur la parenté pour la plupart des gens. Parce que supposez que je vous demande, à vous, que je vous demande comment est-ce que vous appelez, vous devez désigner, par quel terme vous désignez, vous appelez le fils de la fille, du frère, de la mère, de votre père.
Il faut un petit temps de réflexion, là.
Je suis sûre qu'il vous faut plus qu'un petit temps de réflexion.
Oui. Bon.
Et, or, évidemment, moi, j'avais appris, par cette éducation enfantine intense, j'avais appris à m'y repérer assez vite. Donc, pour moi, ça ne posait pas vraiment de problème. Mais ça en pose à tout ethnologue. Bon. Et il y a eu énormément de travaux méthodologiques qui ont été faits pour savoir comment on peut s'en tirer pour étudier la parenté. Et cette difficulté particulière de faire comprendre aux gens se double d'une, deux autres difficultés. L'une, qui est tout à fait compréhensible, c'est que si la personne en question n'existe pas physiquement, c'est-à-dire si Ego, qui pose la question, n'a pas un cousin qui est le fils de la fille, du frère, de la mère, de son père, je reprends mon exemple, si ce garçon-là n'existe pas, il dit, j'en ai pas. Voilà, bon, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous partons de celui que nous appelons alter, l'autre, par rapport à ego, moi. C'est-à-dire, je vous dis comment vous appelez le fils de la fille, du frère, de la mère, de votre père, vous. Et eux, généralement, ils partent d'eux-mêmes. Ils disent mon père, sa mère, son frère, sa fille, son fils. Donc il y a cette double gymnastique mentale pour l'ethnologue de passer dans le type de formulation
alter, de E à
E. Et voilà. Et puis pour les gens que vous avez en face, de restituer mentalement également la situation et surtout d'être capable de l'abstraire, c'est-à-dire que même s'il n'y a personne qui occupe cette position, de dire comment on l'appelle.
Mais c'est... Ce que vous voulez dire, c'est que tout le monde n'est pas capable de faire cette gymnastique intellectuelle.
Non, tout le monde n'est pas capable. Ce qui fait que, au moins à l'époque où je et beaucoup de gens n'aiment pas le faire. Donc, à l'époque où je faisais ce genre de travail, il y avait eu très très peu d'études approfondies puis je dirais même qu'on n'avait pas d'études approfondies de parenté sur des systèmes africains. Bien sûr, il y avait des relevés, mais qui s'arrêtaient très vite à la génération des parents, la génération d'ego et la génération en dessous. C'était tout, puis on n'allait pas vraiment beaucoup plus loin. Et donc, j'ai dû inventer une méthode en partant du principe que l'abstraction n'était pas l'apanage des Occidentaux et qu'il était tout à fait certainement possible de pallier cette difficulté de représentation mentale qu'ils avaient de la même manière que nous l'avons. Il était possible de pallier cette difficulté en utilisant des artefacts. Bon. Alors, je suis partie sur le terrain en ayant fait, si vous voulez, déjà, sur des cahiers, un inventaire de toutes les situations de parenté consanguine et d'alliance pour égo masculin et égo féminin sur 5 générations, bon, et ce qui représente un nombre de schémas considérable. Bon, et en me disant, je vais poser les questions les unes après les autres, puis je me suis rendu compte très vite que passer les liaisons immédiates, le père, la mère, etc., les oncles, les gens ne suivaient plus. Donc j'ai inventé une méthode en utilisant des objets, c'est-à-dire en utilisant des coris. Des coris, c'est des petits coquillages qui servent de monnaie, enfin qui servaient de monnaie. Ça sert toujours de monnaie traditionnelle, hein, mais ça servait encore à mon époque de monnaie pour acheter des choses courantes. C'est des petits coquillages blancs qui ont une ouverture un peu torsadée, enfin en dents de scie, et qui représentent traditionnellement toujours le sexe féminin. Donc ces petits coris représentaient des femmes, et puis il y en avait un plus gros qui représentait égaux. Et puis je prenais des cailloux avec des tranchants assez nets pour représenter les hommes, un plus gros pour représenter égo, et des allumettes ou des bouts de bois pour représenter les différents types de relations, hein, de filiation, de collatéralité ou de mariage, d'alliance. Et donc je dressais des schémas et je disais, donc vous êtes là, ici je mets un cori, c'est votre mère. Ici, c'est le père de votre mère, puis la sœur du père de votre mère. Elle a une fille qui a un fils. Bon. Et une fois que tout cela était fait, je disais, comment vous appelez les différents protagonistes? Bon. Et ça marchait très bien. Alors, ça marchait très bien, parce que
Vous avez des représentations.
Dès qu'il y a eu une représentation visuelle, ça marchait très bien. Ça marchait tellement bien, d'ailleurs, que très vite, j'ai cessé d'utiliser cet ordre logique qui était le mien, qui suivait l'accroissement en génération, en collatéralité, parce qu'eux-mêmes, suivant une pente qui était la leur, me constituaient, à partir d'un schéma que je leur avais constitué, ils en constituaient d'autres. Ça voulait dire qu'entre ce schéma et les autres qu'ils constituaient, ils avaient senti un rapport. C'était déjà un élément d'information important. Ils ne suivaient pas ma logique, ils suivaient la leur. Bon, et c'était eux qui me constituaient des schémas. Il me suffisait, moi, d'aller les retrouver dans mon cahier, puis de les barrer, parce que je les avais... Et on a procédé de la sorte jusqu'à ce que tout ait été effectivement envisagé. Et ça a été un apport considérable aussi, parce que cela m'a permis de voir en pratique comment les enfants apprennent à s'y reconnaître dans un système de parenté dont j'expliquerai après pourquoi il est très difficile à comprendre, à se remémorer et à comprendre. Et donc, j'ai compris comment ils apprenaient. Ils doivent passer nécessairement par l'appellation de celui, père ou mère, qui se trouve sur la ligne, qui les conduit à l'autre.
Directement à l'autre.
Et ensuite, de l'appellation qu'ils donnent, que le père ou la mère donne à ce parent, ils en déduisent l'appellation qu'ils doivent donner à cette personne. Alors, par exemple, si j'ai égo, son père, sa mère, le frère de sa mère, qui a une fille, qui a un fils... Ego me dira, eh bien, au-dessus de moi, il y a mon père. Mon père, le frère de sa mère, il l'appelle mon oncle maternel. Et s'il l'appelle mon oncle maternel, moi, je dois l'appeler grand-père. Mm-hmm. Ensuite, la fille de son oncle maternel, mon père l'appelle ma mère. ma mère.
Là, ça se complique déjà.
Ça se complique. M'appelle ma mère. Et si mon père appelle cette femme ma mère, moi, je dois l'appeler grand-mère. Alors, le fils de cette mère pour mon père, comme mon père appelle sa mère ma mère, il l'appelle ce fils mon frère. Mon frère. Et moi, je dois appeler ce frère de mon père, je dois l'appeler mon oncle paternel. Et donc, vous avez là la manière dont les enfants apprennent. C'est une déduction logique qui tient des appellations. Il faut passer par le père ou la mère et ensuite faire une déduction logique.
Voix nue. Caroline Brouet rencontrait Françoise Héritier en 2006.
Ce système de parenté, dont les auditeurs ont déjà pris conscience à travers ce petit exemple qu'il ne correspondait pas effectivement du tout au nôtre.
Au nôtre, exactement, bon, c'est ce que j'allais vous
dire. Ça s'appelle un système Omaha, parce qu'il a été décrit chez les Indiens Omaha d'Amérique du Nord, par des auteurs américains. Et on n'en connaissait pas tellement l'existence en Afrique. Or, il y en a beaucoup en Afrique.
Alors, en quoi il nous éclaire, nous, sur nos propres populations, sur notre propre civilisation, et en quoi ce que vous avez compris des Samous peut éclairer d'autres populations, y compris la nôtre ?
Je ne pense pas que ça puisse éclairer notre système à nous, qui est tout à fait différent, qui est un système esquimau. Ça nous éclaire simplement sur le fait que les populations humaines, toutes les populations humaines, ont réfléchi sur les mêmes données, mais les ont pas traitées nécessairement de la même façon. Alors, il y a déjà, au départ, un trait très particulier qui est à la base de ce type de système, mais de plusieurs autres également, qui est la perception qu'ont les individus que des germains de même sexe sont identiques, alors que des germains de sexe différents sont opposés, sont différents. Alors, ainsi, deux frères, c'est la même chose. Et deux sœurs, c'est la même chose. Alors qu'un frère et une sœur sont radicalement différents et doivent avoir des destins différents. Et donc, là, nous avons là un système de clivage qui va faire des systèmes de parenté où, quand vous avez deux frères ou deux sœurs, nécessairement, les enfants de ces frères et de ces sœurs s'appellent mutuellement frères et sœurs. Alors que s'ils se trouvent... Si on trouve les enfants d'un frère et d'une sœur, ils doivent s'appeler différemment. Et ça induit généralement aussi des systèmes d'alliances différents. Parce qu'il y a, pas dans ce cas-là précis, mais dans d'autres cas, dans d'autres sociétés qui fonctionnent avec cette même équivalence des germains de même sexe opposés à la différence des germains de sexe différents, eh bien, il y a des systèmes d'alliances qui vont dire qu'on ne peut pas épouser les cousins qui sont parallèles, c'est-à-dire qui sont issus de germains de même sexe, mais au contraire, on doit épouser ces cousins qui sont issus d'un couple de germains, une paire de germains de sexe différent. Donc on doit épouser, par exemple, un homme doit épouser la fille de son oncle maternel et une fille doit épouser le fils de sa tante paternelle. Bon. Et donc, vous avez là donc toute une série d'enchaînements qui s'en suivent, mais qui nous montrent en tout cas que toutes les sociétés humaines ont pensé le même matériau que nous pouvons traduire sous forme de loi. Et c'est un des points centraux de l'ethnologie, parce que justement, c'est un domaine avec des unités que j'appellerais discrètes, qui nous permet d'établir, de découvrir des lois comme on en découvre dans la nature, dans le fonctionnement de la nature.
Françoise Héretti, nous reviendrons sur ces lois dans l'émission de demain. Mais avant que nous nous arrêtions aujourd'hui, j'aimerais quand même que vous nous disiez ce qu'il vous reste de l'Afrique. Cette fois, peut-être moins en tant qu'ethnologue qu'en tant que femme. Ce que vous gardez en vous de ces expériences que vous avez vécues avec ces populations extrêmement différentes et malgré tout peut-être proches de nous.
Il y aurait à parler sur plusieurs plans.
Des émotions, des expériences humaines.
Les émotions, la première émotion est une émotion olfactive. C'est l'arrivée, la première arrivée, l'arrivée en pleine, en début de nuit, la nuit tombe à 6h hein, sous ces tropiques, arrivée donc à la nuit tombée à Niamey, premier stop en Afrique avant d'arriver à Ouagadougou, avec un petit avion, à l'époque c'était des caravelles, et sortir sur le tarmac et puis recevoir d'un choc, la puissance de l'odeur de la terre africaine.
Vous voyez qu'on y revient à la terre.
Et qui est une terre, une odeur poivrée, épicée, chaude, humide. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est quelque chose de fabuleux. Et d'ailleurs, je crois que tous les gens qui ont mis le pied la première fois sur les terres africaines ont connu cette expérience. Et moi, c'est pas seulement la première fois, toutes les fois que j'y allais, je reconnaissais cette odeur et ça me donnait la chair de poule. Enfin, c'était quelque chose d'extrêmement fort. Bon, ça, c'est un premier trait. On l'oublie ensuite, une fois qu'on y est habitué, on n'y fait plus attention, mais c'est extrêmement fort. Le deuxième, c'est sur le terrain, c'est le fait que, une fois que vous êtes accepté, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être dans une autre émission, une fois que vous êtes accepté, vous découvrez des gens qui sont tellement semblables à votre famille, à vos connaissances, à vos relations, que vous vous retrouvez en terrain connu. Bon, bien entendu, il y a l'inconnu de la culture que vous allez apprivoiser provisoirement, mais pour les personnes, vous retrouvez chez les gens des traits de caractère et même parfois des traits physiques qui vous évoquent des gens que vous connaissiez de chez vous, dans votre pays. Je me souviens notamment, parce que cela m'émeut toujours autant lorsque j'y pense, d'une vieille dame dont la fille était morte en couche, et qui m'a apporté une année, m'a apporté le bébé, parce que le bébé était condamné à mort. Alors, si sa mère était morte, les femmes ne cherchaient, contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas une solidarité telle que les femmes qui allaitent veuillent bien donner le sein à ce bébé, parce que ce bébé est mortifère, il a tué sa mère. Donc les seules personnes qui peuvent à la limite donner le sein, c'est des sœurs de la mère qui est morte. Mais là, il n'y en avait pas. Et donc cette vieille dame est venue m'apporter ce bébé et elle s'est mise à genoux devant moi en me tendant ce bébé sur les bras. Et la seule chose que j'ai pu faire, c'est la relever et puis me précipiter en voiture, aller chercher à Ouagadougou du lait en poudre, des biberons, des tétines, enfin tout l'attirail nécessaire, et prendre en charge le bébé qui restait avec sa grand-mère, mais qu'elle m'apportait à heure fixe pour. Puis ensuite, elle a appris elle-même à faire les biberons, mais enfin pour les tétés. Donc, mais cette femme qui venait, qui était âgée, qui se présentait dans cette posture de suppliante, et c'était. Les seins nus, avec juste un vieux pagne tout rapiécé autour des reins, pleine d'arthrite sans doute, parce que la voir s'agenouiller, c'était affolant. C'était ma grand-mère. Vous comprenez, elle ressemblait à ma grand-mère maternelle, qui avait aussi cette forme, cette présentation humble, toujours un peu voûtée, toujours un peu l'impression de se sentir en trop, etc. Et donc, elle ne s'était jamais mise à genoux devant moi, ma grand-mère. Mais de voir cette vieille dame se mettre à genoux devant moi, j'ai eu le sentiment, mais brutal et insupportable, que c'était ma grand-mère qui s'agenouillait devant moi. Et donc, je ne pouvais pas le supporter. Mais j'ai toujours eu, à l'égard des gens que je fréquentais, un type de rapport, je ne dirais pas nécessairement toujours affectif, parce qu'il y a ceux que vous aimez bien et puis ceux que vous n'aimez pas, hein, comme par définition. Mais il y avait une familiarité qui tenait au fait que dans la pratique, dans leurs usages corporels, dans leur façon de parler, de se tenir, ces gens m'évoquaient toujours des personnes que je pouvais avoir connues. Puis alors évidemment, il y a un troisième point. Sur l'Afrique, c'est la misère, c'est la pauvreté.
Vous diriez que le fait, Françoise Héritier, que vous avez vécu beaucoup de temps avec ces populations et que vous avez éprouvé le sentiment peut-être d'une communauté affective, vous rend plus sensible aujourd'hui à ce qu'on pourrait qualifier de l'indifférence de l'Occident vis-à-vis de cette misère africaine ou de ce qui se passe là-bas ?
Ah oui, je suis très sensible. Mais je ne sais pas si ça tient au fait des affects, mais vraisemblablement oui, mais aussi pour des raisons purement intellectuelles. Enfin bon,
objectif.
Mais il y avait quand même un détail que je voudrais dire. C'est vrai que c'était une grande misère, une grande pauvreté, que l'espérance de vie était courte, d'après les calculs que j'avais pu faire, que beaucoup d'enfants mouraient avant l'âge de 3 ans, et qu'il y avait énormément à faire sur le plan sanitaire. Mais ce qui me frappait aussi, en dehors des périodes de crise alimentaire, parce que quand il y avait... Ce qui me frappait aussi, c'était une espèce de bonheur de vivre. Je veux dire, vivre en pays Samo, je ne l'ai jamais vécu comme une relégation dans une île morose. C'était des gens qui éprouvaient un bonheur à vivre, alors même que par comparaison avec nous, ils ne faisaient pas cette comparaison. Mais ils voyaient simplement, parce que naturellement, ils n'avaient pas accès à la télévision, ni rien de tout ça, mais un bonheur de vivre qui était tout à fait communicatif.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Caroline Brouet avec Françoise Héritier, enregistrée en 2006. À voix nue, réalisation Massimo Bellini, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.